Question d'Islam par Al-Bunshi. Aujourd'hui, nous parlons de l'imama au féminin, les imams femmes. C'est une idée qui a l'air de surprendre, alors qu'en réalité, a déjà une inscription dans l'histoire contemporaine et même à travers l'histoire. Et j'ai plaisir à accueillir Madame l'imam, Kahina Bahloul. Bonjour.
Bonjour.
Kahina Bahloul, merci. Merci de venir nous parler de votre vocation. Nous aurons à passer du temps avec vous dans cet entretien pour que vous nous expliquiez l'imama au féminin. Comment, chez vous déjà, cette vocation est-elle née? Je précise d'emblée pour nos amis auditeurs que vous êtes théologienne, donc vous connaissez bien les questions religieuses, divines, c'est l'étymologie du mot, tenir un logos sur le divin, ou l'intelligibilité de la foi mise à l'épreuve du temps pour une autre définition. Vous êtes islamologue et vous préparez une thèse de doctorat sous la direction du professeur Pierre Lory. Vous nous expliquerez tout cela plus tard à propos des aspects juridiques du maître Ibn Arabi, docteur Maximus.
Tout à fait.
Alors comment est-elle née d'abord votre vocation ?
Eh bien, il s'agit d'un long processus. Elle n'est pas née comme ça du jour au lendemain. Je me suis réveillée, je me suis dit, tiens, j'ai envie d'être imam. C'est un très très long processus. Je suis née en France et j'ai grandi en Algérie, donc dans un pays musulman où j'ai étudié dès l'enfance à l'école primaire et puis dans le secondaire. Et puis après, lorsque j'ai fait ma maîtrise de droit en Algérie, donc où j'ai étudié la charia, qui est une des sources du droit positif en Algérie, eh bien cette question du religieux m'a toujours interpellée. Et puis c'est aussi lié à mes origines, parce que il se trouve que je suis de père algérien et de mère française et de grand-mère maternelle juive, d'un grand-père maternel catholique. Donc je me suis toujours posé la question du lien de l'islam aux autres religions. Eh bien voilà, ça a été le programme d'une vie. Et puis
que vous portez avec votre propre prénom.
Tout à fait, oui, je m'appelle Kahina, qui veut dire en arabe le mot qui est utilisé en arabe pour le prêtre, c'est el kahin. Donc c'est le féminin de prêtre,
la prêtresse.
La prêtresse, tout à fait. Et alors, donc, en 2015, suite aux attentats de 2015, il y a aussi cette mémoire traumatique de la décennie noire que j'ai vécue en Algérie qui a ressurgi en moi. Et je me suis dit qu'il fallait absolument agir, faire quelque chose pour pouvoir contrer ce fondamentalisme religieux qui était en train d'opérer des ravages dans nos sociétés sur le plan international. Donc, j'ai repris mes études en islamologie, à l'école pratique des hautes études, et j'ai co-créé avec des amis une association qui s'appelle Parle-moi d'Islam, où nous avions commencé à expliquer certains préceptes de l'islam à travers des vidéos sur les réseaux sociaux. Et puis j'ai découvert, dans mes lectures, j'ai découvert ces modèles de femmes imams, parce qu'il se trouve, quand on est une femme, on n'a pas toujours dans notre quotidien des modèles de femmes imams. J'en ai pas connu dans mon enfance, et là je découvre qu'il en existe, qu'il y a eu Amina Wadoud aux États-Unis en 2005 qui a conduit pour la première fois une prière devant une assemblée mixte, et Sherin Khankan au Danemark. Et ça m'a juste éblouie, et je me suis dit, c'est extraordinaire, en fait il y a possibilité pour une femme musulmane de devenir imam.
Et oui, c'est vrai. Je voulais revenir sur un point, mais que je dirai tout de suite. Mais là, Amina Wadoud ayant conduit cette prière mixte aux États-Unis en 2005, c'était le 15 mars 2005, Sherin Khankan a été reçue même par le président de la République. Oui. Mais il y en a d'autres,
oui,
dans tous les pays scandinaves, en Allemagne,
oui,
en Inde aussi.
En Angleterre aussi.
En Angleterre, bien entendu, en Grande-Bretagne et au Canada. Disons en gros en Occident, au Mexique.
Oui.
Bien sûr aussi.
Et en Chine aussi.
Et en Chine.
J'en ai rencontré.
Avant de revenir à ma question que je mets un peu de côté, c'est qu'à travers l'histoire, l'imama pour les femmes ne se posait pas pour trois grandes écoles sur quatre que connaît l'obédience sunnite.
Alors, c'est vrai que la seule école qui est complètement réfractaire à la question de l'imamat de la femme est l'école malékite, qui ne reconnaît absolument pas l'imamat, que ce soit devant une assemblée mixte ou une assemblée exclusivement féminine. Mais pour les autres, elles l'ont reconnue. L'école hanafite, hanbalite, reconnaissent l'imamat de la femme devant une assemblée féminine. Et souvent d'ailleurs, ce qui est précisé, c'est que la femme imam doit être à l'intérieur de l'assemblée, non pas devant. Mais la question s'est posée, en réalité, c'est pas du tout un sujet qu'on... Enfin, on a l'impression de découvrir que c'est un sujet nouveau, mais en réalité, il s'est toujours posé dans la théologie musulmane et de grands savants musulmans ont pris parti pour ou contre cette question de l'imamat de la femme. Et on retrouve même dans les recueils de traditions prophétiques, dans de grands recueils de traditions prophétiques, comme par exemple le Mousnad de Ibn Hanbal, ou les Sunan de Abu Daoud, ou bien les Sunan de Al-Bayhaqi, on retrouve...
Alors, Sunan, c'est un terme générique pluriel qui dit un peu les traditions, en gros. Et voilà. Vous avez cité quelques traditionnistes.
Voilà, tout à fait. Dans lesquels on retrouve une tradition qu'on attribue au prophète, sur lui la paix et la miséricorde de Dieu, et où donc cette tradition nous raconte, nous parle d'une femme, Umm Waraqa, que le prophète aurait désignée pour être imam, pour guider la prière. Alors, dans le texte de la tradition elle-même, on retrouve le mot « dariha », mais après, bon, voilà, le hadith a été interprété.
Et le commentaire ajoute « en dépit de la présence de son mari ».
Oui.
Ce qui montre la prééminence ou le choix sur cette femme, j'allais dire cette dame, mais dame est un titre récent dans l'histoire, sur oui. cette femme en présence de son mari, insistent les commentateurs. Ma question, comme ça on l'aura réglé, vous avez dit que vous avez fait des études de droit et vous avez étudié la charia faisant partie du droit positif. Mais la charia en tant que telle n'est pas le droit strictement religieux. C'est une compréhension et une interprétation du droit d'inspiration religieuse qu'on a mis sous le vocable de charia.
Oui, 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 tout à fait. Il y a souvent confusion et... une mauvaise compréhension du mot sharia, d'ailleurs, selon les savants, il a une utilisation complètement différente. Par exemple, je travaille sur le penseur Ibn Arabi, qui est un grand philosophe, un grand mystique. Il utilise beaucoup le mot sharia, mais pour lui, le mot sharia veut dire voie spirituelle, et non pas du tout un droit avec des règles qui dicteraient ce qu'est le licite ou l'illicite. Pas du tout.
Et cette acception un peu drastique, rappelons-le, n'est que récente dans l'histoire. Alors quand on dit récente, c'est peut-être au tournant du 19e, 20e siècle, puis c'est venu avec l'idéologisation de la tradition religieuse islamique pour d'autres fins que spirituelles. Une autre question, Karina Bahloul, comment expliquez-vous que en France, l'imamat des femmes soit aussi tardif? Alors que d'autres pays occidentaux, notamment, et même vous avez évoqué la Chine, l'Inde, alors on parle du Pakistan, mais là l'imamat était ancré pour les femmes, ça remonte déjà à des décennies.
Tout à fait, tout à fait. C'est vrai que c'est très étonnant de constater qu'en France, l'imamat, la question de l'imamat est très tardive par rapport à d'autres pays. Mais je crois que l'islam en France reste un islam très conservateur, qui est encore très influencé par l'islam consulaire ou l'islam des pays d'origine. Le Maghreb n'est pas très loin.
Dont il faut s'affranchir.
Dont il faut s'affranchir, bien évidemment. Et c'est tout l'objectif de notre démarche. Oui, donc ce conservatisme qui est très très fort dans l'islam de France, les gens n'ont pas osé, les femmes n'ont pas osé s'affranchir de ce conservatisme pour s'approprier les textes et dire que voilà, aujourd'hui on peut lire les textes indépendamment de cet islam-là, l'islam conservateur, on va dire.
Alors on reviendra, si vous voulez bien, sur la démarche elle-même et puis les arguments théologiques, les fondements sur lesquels vous basez votre approche théologiquement parlant. Mais placez-vous votre démarche dans le pluralisme, dans la palette, la gamme, j'ose dire le spectre des différentes tendances, des différentes options de l'islam d'une manière générale et en France en particulier?
Tout à fait, je pense que il est très important de se dire que l'islam, il n'y a pas une seule vérité et il n'y a pas un seul islam. Il n'y a pas Monsieur Islam. L'islam est un texte, le Coran, qui est la première source pour les musulmans, eh bien, c'est un texte que chacun devrait pouvoir interroger, lire et se l'approprier au quotidien. On peut pas dire qu'il y a une seule norme, un seul islam qui doit être dicté. Et d'ailleurs, la particularité de l'islam, c'est qu'il n'y a pas de clergé. L'islam, il y a ce lien direct entre le fidèle et Dieu et le divin. Donc il y a cette responsabilisation aussi du fidèle, de l'individu, qui doit interroger les textes et essayer de chercher à être dans un mouvement de recherche, je dirais, perpétuel, ne jamais cesser de chercher. Et donc, quand vous disiez, oui, il y a toute une palette, je dirais, d'offres ou de courants, oui, c'est normal et je dirais que c'est salutaire. Il y a même une tradition prophétique qui dit que la diversité est une miséricorde voulue par Dieu. Et on retrouve ça aussi dans les autres religions, on le retrouve dans le judaïsme, dans le christianisme. Et c'est tout à fait salutaire et ça permet aux gens de choisir le courant ou la voie qui correspond le mieux à leur conscience, leur compréhension de la vie et de la sagesse divine.
Alors, vous avez dit qu'on retrouve ça dans les autres religions, et notamment les deux religions sœurs dans la famille abrahamique. Pour le judaïsme, nous avons vu cela, et il ne se porte que très bien dans cette pluralité. En revanche, dans la version chrétienne catholique, nous n'avons pas encore de ministre du culte.
Non, pas encore.
Pas encore, soulignons le « pas encore ». Comment, Kahina Bahloul, lorsque vous parlez du texte coranique qu'il faut s'approprier, vous y voyez une source jaillissante qu'il faut interpréter tout le temps, avec l'absence d'un clergé, d'une structure cléricale, d'aucuns pourraient vous dire « oui, mais il ne reste que l'approche un peu charismatique ». Alors, pardonnez-moi la question, vous avez un charisme auprès des fidèles qui vous suivent quand vous dirigez la prière?
Forcément, en tant que leader religieux, oui, il y a des gens qui viennent faire la prière avec moi, et c'est parce qu'ils adhèrent à ma compréhension de l'islam, ils adhèrent à mon discours théologique. Oui, mais en même temps, je crois qu'il est important aujourd'hui dans la voie que nous sommes en train d'ouvrir, d'initier, qui est le courant de l'islam libéral, et j'insiste sur le mot libéral, sur le fait que chaque individu doit garder entière et totale sa liberté de conscience. Même si, oui, on a tous besoin à un moment donné de guide, d'imam, et c'est le sens même du terme imam, qui est là pour guider, pour donner des quelques clés. Être à la tête et donner quelques clés. Mais je ne suis pas du tout un gourou. Moi, je ne veux absolument pas être un gourou et avoir une emprise sur les consciences des fidèles. Bien au contraire, moi, j'appelle à une spiritualité libératrice des consciences.
Vous êtes, comme disent certains, et c'est la vocation de l'imam d'une manière générale, homme ou femme, comme un thérapeute de l'âme. C'est quelqu'un qui accompagne, qui libère ses consciences au lieu de culpabiliser. Vous œuvrez, notamment dans vos prêches, pour que l'être humain soit émancipé. Le sujet humain ne croule pas sous la culpabilité ou je ne sais trop quelle pesanteur religieuse.
Exactement, oui. Je crois qu'on est tombé... L'islam, enfin quand je dis islam, je généralise un petit peu, mais c'est par facilité de langage, mais je crois que ces derniers temps, on est vraiment tombé dans les travers du poids, de la norme religieuse qui bride les consciences.
Jusqu'à l'obsession,
et puis surtout qui inculque la peur et la peur de tout ce qui est religieux. Et moi, j'ai des témoignages de femmes et d'hommes qui m'écrivent et qui me disent, mais jusque-là, pour moi, la religion était synonyme de peur, parce qu'on a tous en tête ces cassettes qui circulaient à un moment donné sur ce qu'on appelle le adab al-qabr, le supplice de la tombe.
Les tourments de la tombe, oui.
Et oui, et donc les gens sont complètement terrifiés à l'idée de ce rapport à l'eschatologie qui est terrifiant. Alors que pour moi, la religion n'est pas du tout... ce n'est pas ça, la religion. C'est d'abord une spiritualité qui doit nous aider à grandir, à nous réaliser en tant qu'être humain sur cette terre. Dieu n'a-t-il pas dit à propos de l'être humain qu'il est le Khalifatullah fil ard, qu'il est le lieutenant de Dieu sur terre, son successeur? Et quelle grande mission que d'être le successeur de Dieu sur terre.
Oui, le vicariat de l'homme, qui est vicaire et icône de Dieu sur terre, puisqu'il est aussi à son image, c'est une notion centrale en réalité dans la théologie islamique, et vous la mettez en avant. Première idée, première mission, si j'ose dire, c'est de rasséréner les consciences, des consciences apeurées, des consciences culpabilisées.
Oui, je l'espère vraiment, mais vraiment attirer l'attention des gens, des fidèles, des croyants, aussi à tout cet aspect de la nature divine qui est aussi miséricorde, amour, et qu'on retrouve d'ailleurs dans le premier verset du texte coranique. Et c'est vrai que jusque-là, on a plutôt mis en avant un Dieu transcendant qui serait loin de sa création, qui serait un Dieu comptable, qui a mis en place des normes auxquelles les fidèles doivent répondre, sinon on leur promet le châtiment de l'enfer. Mais on occulte complètement l'autre versant de la nature divine qui est miséricorde, qui est l'immanence divine et qu'on retrouve beaucoup dans la spiritualité musulmane. Et en réalité, un penseur par exemple comme Ibn Arabi dit que la miséricorde divine qui relève de cette immanence divine l'emporte sur sa transcendance, parce que ne serait-ce que la prophétie, par exemple, fait partie de cette miséricorde divine. La prophétie, Dieu nous a envoyé des prophètes pour nous guider, pour nous rappeler à chaque fois qu'il est proche de nous.
Hein, donc plus il a... proche même que la veine jugulaire.
Tout à fait.
Le fameux verset 16 de la sourate 50. Kaïna Baloul, vous avez dit que ce que vous incarnez, ce que vous représentez, ce que vous voulez mettre en avant, c'est un islam, et vous avez ajouté tout de suite l'épithète libéral. Ça sous-entend qu'on ne peut pas aborder le terme, le vocable, la notion, le concept, le sujet même islam, sans qu'il y ait une épithète qui le caractérise entre le rigoriste, le radical, hélas, le violent, traditionnel, et on va couvrir ainsi toute la gamme jusqu'à ce qu'on arrive au vôtre, qui est l'islam libéral.
On se retrouve un peu, oui, un peu obligé de se définir, parce que quand on ne se définit pas soi-même, ce sont les autres qui se chargent de faire à votre place. Et oui, évidemment, notre islam, enfin, la lecture, disons, qu'on prône, parce que... Et puis, il y a des islams.
Pardon, c'est vous-même et les personnes qui sont avec vous.
Et les personnes qui sont autour de nous, bien, oui, bien entendu, je ne suis pas toute seule. La lecture que nous prenons de l'islam est une lecture libérale. On a choisi ce vocable. Alors, il faut bien faire la distinction entre libéralisme économique ou politique. Alors, ça n'a rien à voir avec ça. C'est vraiment libéralisme dans le sens où c'est la liberté de conscience de l'individu est mise en avant. La liberté, et qui dit liberté individuelle, dit responsabilité aussi. Donc la liberté et la responsabilité du fidèle, non seulement dans sa spiritualité, dans sa croyance, mais aussi en tant qu'acteur social, membre de la société dans laquelle nous vivons.
Maula wa li wahis wa li ashjaru kad sajadat lahu wa alayhi kad salamuna ba'da tashahudi wa min al-yasiri saka wa at'ama jayshahu hatta kitafahu wa yasiruhu lam yanfadi wa muhammadun ala wa sara wa kad asira bihi subhanahu Yakidwana mumutatu ya anili farkadi. Wala alali afulak wali amulaku fi. Masirahu ya shahadu thumma malam tashadi. Wa muhammadun ala wa lahumada anifasihima li rabbihi. Ma shi'ita min kurubi wa ladhat mashadi. Wa lahu li wasilatu wa li fadilatu wa li ula. Wa makamahu li mahamudu yawma li madi.
Nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam avec la théologienne, islamologue et l'imam. Je souligne le E à la fin de imam, Karina Bahloul. Nous parlons de cette vocation qu'est la sienne et qui est une vocation assise sur des arguments théologiques. Karina Bahloul, d'abord, quelles ont été un peu les réactions d'une manière générale? Votre calme, votre sérénité, votre force intérieure vous mettent à l'épreuve de tout cela, mais vous y répondez.
J'y réponds par la sérénité. Je crois que c'est la meilleure réponse. Alors effectivement, oui, il y a tous les conservateurs, tous les courants un peu fondamentalistes qui sont absolument scandalisés parce que par notre discours, par l'imamat, le fait de revendiquer une place au sein du ministère religieux pour les femmes. Mais par ailleurs, nous avons aussi beaucoup de réactions positives. Beaucoup de gens nous disent, nous étions en attente de cela. Mais pour revenir, donc juste revenir aux gens qui sont choqués par cette idée de l'imamat ou de l'imamat féminin ou de l'idée d'un islam libéral, en fait, j'ai envie de leur dire, il ne s'agit pas de changer les fondements de l'islam, il ne s'agit pas de changer le texte coranique lui-même, parce que beaucoup nous disent « oui, vous voulez changer notre belle religion ». Pas du tout. Je crois que malheureusement la mutilation interprétative a été exercée plutôt par les mouvements fondamentalistes, hein, avec tout ce qu'on voit malheureusement aujourd'hui comme expression violente de la compréhension de ce qu'est la religion. Mais bien au contraire, nous essayons de réinterroger les textes avec une autre méthodologie. Il se trouve qu'aujourd'hui, les sciences humaines sont très en avance, notamment ici en Occident, en France. Je suis moi-même islamologue, donc j'ai étudié les textes à travers l'approche historico-critique. Donc voilà, ça permet de remettre les choses un peu, et la compréhension des textes dans une autre perspective, dans une perspective plus scientifique, qui répond aux défis de notre époque.
Encore une fois, l'ignorance combinée à la croyance donne le fanatisme. Quand on se donne la peine, pour vous ce n'est pas une peine, d'aller étudier, d'apprendre, ben ça ouvre des perspectives. Quel est l'intérêt pour vous d'étudier l'œuvre du grand maître Ibn Arabi, rappelons 1165 à Murcie, 1240 à Damas, il n'a fait le voyage qu'une seule fois dans sa vie, il n'est plus revenu en Andalousie. Ibn Arabi est connu comme un grand métaphysicien, grand théosophe, mystique, le plus grand maître pour certains. Mais vous vous intéressez plutôt au versant juridique de son œuvre.
Oui,
et pourquoi?
Alors, on méconnaît tout à fait cet aspect de la pensée d'Ibn Arabi, mais il a effectivement produit une pensée juridique. Alors, je me suis intéressée à cette pensée d'Ibn Arabi parce que Ibn Arabi est extraordinaire. Hein. Il a, en tant que mystique et en tant que théosophe, il a produit une pensée cosmologique très 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 riche. C'est vraiment le théoricien de la doctrine soufie. Et en fait, Ibn Arabi parle sans cesse dans sa pensée du vivant. Donc le vivant qui est Dieu, Al-Hayy, et qui s'exprime, donc cet attribut divin qui s'exprime dans sa création, et parmi cette création, donc il y a l'être humain, donc la vie qui s'exprime en nous comment, je me suis interrogée, j'ai voulu comprendre comment ce grand mystique qui parle sans cesse de vie et du vivant, avec un grand V, comment il aborde la question du juridique, hein, de la normativité religieuse qui, aujourd'hui, est tombée dans, et pour moi, morte, en fait. On est juste en train de recycler une pensée complètement sclérosée qui n'est plus dans le mouvement. Alors, j'ai envie de comprendre, j'ai voulu comprendre comment ce penseur qui parle de vie, donc la vie qui est un mouvement perpétuel, et comment il allie donc la norme religieuse à cet aspect donc du divin qui est la vie.
Alors rappelons qu'Ibn Arabi avait deux maîtresses, au sens de professeur, dont une, elle n'était pas imam, elle, mais elle lui avait enseigné la connaissance qui fut la sienne. Je dis ça comme ça en passant. Il est vrai que comme source première et fondamentale qu'est la révélation coranique, le texte coranique, on a beau le compulser du premier verset jusqu'au dernier, rien ne justifie d'abord l'absence de l'imamat des femmes et cette lecture machiste, phallocrate, sexiste, voire misogyne à travers l'histoire que des théologiens, des jurisconsultes, hommes, ont cru y déceler.
Oui, bien sûr. Alors, ces juristes hommes, hein, comme vous le dites, les juristes ont toujours été des hommes et ils ont cru devoir ou avoir l'exclusivité de l'interprétation du texte coranique, mais il se trouve qu'ils l'ont toujours fait sous le prisme du patriarcat, du modèle patriarcal qui met en avant l'autorité masculine sur le féminin. Et donc, ils ont toujours lu le texte coranique et ils l'ont interprété sous ce prisme du modèle patriarcal dans lequel ils ont grandi et même du modèle misogyne, j'ai envie de dire, de ces sociétés dans lesquelles ils ont évolué au Moyen-Âge et même avant. Et je crois qu'il faut vraiment être lucide là-dessus parce que il faut se dire que ces gens-là, que ces hommes-là qui ont interprété ces textes ne sont que des êtres humains et qu'ils ont leur subjectivité. Il faut prendre conscience de ça et puis se dire qu'aujourd'hui, nous, on a le droit aussi de faire le même travail. Et d'ailleurs, on retrouve une tradition de l'imam Abu Hanifa qui dit « Ce sont des hommes et nous sommes des hommes ». En l'occurrence, je suis une femme, mais vous comprenez ce que je veux dire. C'est homme avec un grand H.
Ils furent des hommes et nous sommes des hommes. Il est mort en 767.
Voilà, tout à fait.
Ce qui est surprenant, c'est qu'on a sacralisé une œuvre humaine.
Oui.
Toute cette sédimentation de commentaires sur le commentaire n'est qu'une construction humaine. Et ce qui a été fait par des hommes peut être défait par d'autres hommes. En l'occurrence, c'est une femme qui le fait dans une approche un peu subversive au sens premier du terme. Donc on subvertit les choses. Et pensez-vous, peut-être que la question est plutôt directe, que le salut du marasme ou la sortie de l'ornière dans laquelle se débattent les théologiens musulmans viennent par ce salut, cette sortie viennent par des initiatives telles que la vôtre.
Oui, je pense que nous avons la responsabilité tous en tant que musulmans aujourd'hui d'entreprendre ce genre d'initiatives, notamment des gens qui ont pu étudier les textes et les aborder dans le cadre notamment de la recherche scientifique, ce qui est très très important, c'est de remettre un petit peu de rationalité, un peu de méthode scientifique dans la lecture des textes et de leur interprétation. Oui, je pense que ça passera par des initiatives telles que celle-ci et notamment par le fait aussi que des femmes s'approprient la lecture des textes et des femmes s'approprient aussi le leadership religieux. Parce que souvent, la question qui m'est posée aussi, est-ce que vous, pour avoir une place en tant que femme dans le paysage religieux musulman, est-ce que vous êtes obligée d'en arriver jusque-là, jusqu'à prendre la place d'imam? Moi, je dis que oui. Parce que tant que la femme ne se positionne pas et ne partage pas de manière complètement égale le leadership religieux avec l'homme, eh bien, elle sera toujours obligée de se situer dans des fonctions subalternes, secondaires, moins importantes, et elle n'aura jamais la même légitimité pour interpréter et lire les textes.
Alors, que faites-vous de ces, de mon point de vue, si j'ose donner mon avis, ces pseudo-hadiths, ces maximes, ces aphorismes du prophète qu'on lui attribue à tort, du genre... Un peuple ne connaîtra pas la félicité s'il confie ses affaires à une femme. On a bien vu que d'autres nations dirigées par des femmes ont connu bien la prospérité. Alors, vous dites que c'est totalement apocryphe, que c'était une fabrication de machos à une époque où on a virilisé en quelque sorte la politique ou politisé la virilité, je ne sais plus dans quel sens ça doit aller, ou simplement vous trouvez d'autres arguments qui diriment, qui pourfendent ces allégations.
Oui, alors, vous savez que ce hadith a été très très bien étudié par Fatima Amernissi, dans un très beau livre, où elle démontre d'une manière très minutieuse et très précise comment déjà, au niveau de la chaîne de transmission, elle a trouvé des personnages qui étaient des personnages pas tout à fait reconnus pour leur honnêteté
à leur époque. Intellectuelle, leur probité, oui.
Voilà, à leur époque. Et donc déjà... À ce niveau-là, voilà, il y aurait beaucoup à dire. On a constitué des chaînes de transmission pour dire des paroles et les attribuer au prophète. Donc oui, évidemment, moi je considère que c'est un hadith, que c'est une tradition apocryphe dont on ne peut pas se servir. Mais après, et là je reviens encore une fois à la position de Ibn Arabi concernant le hadith, ce grand mystique. Ibn Arabi, il dit, il y a deux modes de connaissance religieux. Il y a le mode rationnel, mais il y a ce qu'on appelle, pour le gnostique, en ce qui concerne le gnostique, le dévoilement. Donc c'est une connaissance qui vient par le dévoilement, par l'intuition. Et Ibn Arabi dit que le gnostique, quand il perçoit que dans un hadith, il y a un non-sens, un contresens ou un problème, eh bien il doit se donner le droit et la liberté de corriger ce hadith à partir du moment où il y a un contresens et qui est juste par et revenir à la sagesse, à une sorte de sagesse universelle à laquelle il a accès. Donc il y a ça, le sens. Donc c'est pour moi c'est absolument fondamental de toujours revenir au sens du hadith et toujours donc faire attention à sélectionner les hadiths en fonction aussi de leur contradiction ou pas par rapport au texte coranique.
Bien sûr. Pour l'anecdote, Fatima Mernissi, la regrettée Fatima Mernissi, paix à son âme, disait qu'elle l'a entendu dans la bouche d'imprimeur, je crois. Elle voulait acheter des légumes, il lui avait raconté ça et ça l'avait poussée à faire toute son investigation pour la véracité ou le caractère authentique ou pas de cette maxime. Revenons effectivement à un débat théologique fondamental. En cas de contradiction entre les aphorismes prophétiques et le texte coranique, le primat est au texte.
C'est évident,
premier.
Oui.
Il n'y a aucune raison de donner la priorité à une maxime, à une parole qui en contradiction flagrante avec le texte coranique pour les croyants musulmans. Et je vous ai entendu parler de sagesse universelle. Donc ce qui va à l'encontre de l'égale dignité des êtres humains et de l'égalité entre hommes et femmes en tout, est à rejeter.
Tout à fait. Je crois qu'il y a des questions qui relèvent du bon sens et de cette sagesse universelle que les grands philosophes ont déjà abordées et dont les théologiens et les penseurs musulmans se sont aussi inspirés, comme la philosophie grecque par exemple. Je crois qu'il ne faut exclure aucune sagesse que l'être humain a pu produire, quelle que soit la culture ou quelle que soit la spiritualité. On trouve des trésors de sagesse dans le bouddhisme, dans diverses spiritualités, et je crois que l'être humain, le musulman et le fidèle musulman doit aussi s'ouvrir à toute, à cette sagesse universelle qui nous unit.
Alors là, nous n'allons pas dire, vous et moi, que ce que je vais vous dire est un hadith authentique, mais il y a ce hadith qui dit que la sagesse est la proie du croyant, il la saisit là où il la trouve.
Tout à fait.
Bon, que ce soit authentique ou apocryphe, en tout cas, ça fait partie de cette idée que la sagesse est à prendre. Alors, vous avez parlé de bon sens. Il y a la boutade classique qui veut que les gens sont sensés lorsqu'ils pensent comme nous. Mais nous sommes, vous et moi, d'accord que l'égale dignité des êtres humains, par-delà le genre, est non négociable en réalité. C'est ainsi. Karina Bahloul, sur le plan purement du rite, de l'office, vous montez en chair.
Oui.
Et vous prononcez le prône, le sermon de la prière du vendredi.
Oui.
Donc là, vous suivez tous les rites. Comment ça se passe vous posant cette question à un moment de la vie d'une femme, on a distillé l'idée qu'elle serait en état d'impureté. Quel gros mot. Comment vous avez réglé ces questions-là ? Sur le plan rituel.
Cette question-là s'est posée aussi dans les autres traditions religieuses monothéistes, notamment dans le judaïsme et dans le christianisme. Et j'en ai beaucoup discuté avec des amis de la tradition chrétienne notamment. Et j'ai vu comment eux, ils ont évolué par rapport à cette question, comment dans leur théologie, ils ont traité de la question. Et je trouve qu'elle est tout à fait, on pourrait tout à fait aussi la transposer dans la théologie musulmane. Parce que quand on revient au texte coranique, dans le texte coranique, il n'y a rien dans le texte coranique qui qualifie donc la période des menstrues féminines de période d'impureté. Le seul interdit, j'ai envie de dire, qu'on peut trouver dans le texte coranique durant cette période, c'est d'avoir des relations intimes dans le couple.
Les fameux rapports charnels qui doivent être un peu évités à ce moment-là.
Voilà, c'est tout. C'est tout ce qu'on retrouve dans le texte coranique. Mais à aucun moment, il n'est dit que la femme ne doit pas faire la prière ou qu'elle ne doit pas faire certains actes cultuels à ce moment-là. Et donc nos amis chrétiens ont évolué sur cette question-là en disant que aujourd'hui il y a la science qui a évolué sur cette question et qui est arrivée à expliquer quel est le processus biologique qui fait que à une période dans le mois la femme a ses menstrues et qu'il ne s'agit pas du tout d'une impureté, mais c'est un processus biologique tout à fait naturel. Et en réalité, ce qui s'est passé, c'est que comme ce sont toujours les hommes, donc ces femmes, ces juristes ou les clercs religieux musulmans qui ont toujours interprété le texte coranique et qui ont toujours défini la norme religieuse. Et comme ce sont des hommes, ils n'ont jamais connu ce que c'est que d'être dans cette période-là, alors ils se sont dit c'est une période d'impureté. Alors qu'en réalité, non. C'est un processus naturel.
Les fidèles, hommes et femmes qui viennent à la mosquée Fatima, puisque vous officiez à la mosquée Fatima comme imam, ils viennent vous voir aussi pour des conseils après l'office, vous tenez séance pour répondre à leurs questions, à leurs aspirations. Y a-t-il une prise en charge spirituelle des fidèles qui viennent vous voir ?
Alors, il y a une prise en charge spirituelle des fidèles, bien évidemment. Alors aujourd'hui, la difficulté que nous avons en ce qui concerne la mosquée Fatima, c'est qu'elle est itinérante parce que nous n'avons pas encore de lieu fixe. Nous sommes toujours, nous cherchons un lieu, mais nous avons des espaces dans lesquels nous rencontrons les fidèles, les personnes qui soutiennent le projet. Et puis il y a aussi aujourd'hui les réseaux sociaux. Qui facilite les échanges, et l'interaction avec les fidèles. Oui, les gens me posent beaucoup de questions. Parfois, il m'arrive de répondre, de passer mes soirées à répondre aux questions des fidèles. Je reçois parfois une dizaine de questions par les réseaux sociaux de la part des fidèles, et j'y réponds dans la mesure de mes compétences et de mes connaissances.
Pensez-vous que vous êtes en tout cas, la tête d'un mouvement révolutionnaire, peut-être que j'utilise un mot grandiloquent, notamment en France, à la fois pour apaiser les tensions, pour vivre une spiritualité élévatrice sous la voûte commune de la laïcité.
Oui, bien sûr, nous œuvrons dans ce sens et nous espérons vraiment que ce projet puisse être un lieu pour les jeunes générations notamment, où on pourra apprendre à être dans une compréhension du religieux qui nous ouvre à l'altérité, qui promeut le vivre ensemble et qui élève les esprits vers quelque chose de vers une spiritualité inclusive, une spiritualité qui élève l'homme vers la sagesse universelle.
France Culture, Question d'Islam, Khaled Bencher.
Aujourd'hui, nous parlons de l'imamat au féminin, l'imamat des femmes, avec Madame l'imam Kahina Bahloul. Plus tard, on ne précisera plus le Kahina Bahloul. Vous êtes théologienne, vous savez de quoi vous parlez, vous êtes islamologue, vous conduisez donc la prière, vous êtes ministre du culte pour l'islam, et ce qui m'a frappé personnellement, à supposer que je doive donner mon avis, c'est que vous ne vous contentez pas des questions proprement cultuelles. Donc vous êtes aussi dans le champ de la connaissance, et donc vous organisez des colloques d'une importance académique, universitaire, scientifique, avec la distance critique requise, particulièrement l'implication de la batterie de discipline des fameuses SHS, les sciences de l'homme et de la société, pour comprendre, déconstruire, appréhender, saisir le fait islamique.
Oui, alors la mosquée Fatima a organisé un colloque inaugural intitulé « L'islam pour une théologie à la lumière des sciences humaines et sociales » le 21 septembre. L'objectif, c'était vraiment de mettre un, un premier pas, de franchir un premier pas, mais c'est aussi symboliquement pour dire que il est important aujourd'hui de remettre la démarche académique au cœur des lieux cultuels. Parce que le constat qu'on peut faire aujourd'hui, c'est que dans les mosquées, le discours qui est tenu dans les mosquées est un discours complètement obsolète et parfois qui frise le mythe, la magie, le superstitieux et
là,
le merveilleux, l'extraordinaire. Nous, ce que nous aimerions faire, c'est vraiment de ramener la rationalité, la méthode scientifique, la rigueur scientifique dans la recherche, l'objectivité, le plus possible d'objectivité en tout cas, parce qu'on est quand même aussi dans un lieu, on aborde une matière cultuelle, donc forcément il y a la foi aussi qui est très subjective, qui est là, mais je pense que l'un et l'autre ne sont pas du tout incompatibles. Je pense qu'on peut être un chercheur et avoir une rigueur intellectuelle dans ses recherches et l'allier à une foi, et je crois qu'au contraire cette démarche débarrasse la foi de tous les sédiments, de tout ce qui a pu être rajouté de manière superflue et superficielle à une foi pure.
Kahina Bahloul, que répondez-vous ? Vous avez donné une esquisse de réponse tout à l'heure à ceux qui parlent de l'innovation blâmable, d'ailleurs qui a asphyxié beaucoup d'esprit et de respiration à travers l'histoire récente, comme quoi il n'y a pas mieux que de rester dans une approche conforme à celle des pieux anciens. C'est la définition même du salafisme. Donc cette démarche ne relève pas d'une innovation blâmable, la vôtre j'entends.
Merci de me poser cette question, parce que ça me permet de revenir...
Vous me faites le coup de Georges Marchais avec ces questionneurs, mais je vous la pose.
Oui, je crois que oui, il faut revenir à cette notion de salaf qu'on utilise, hein, qu'utilisent les fondamentalistes, qui est en réalité un mouvement très récent, qui est né au 19e siècle, et de voir à quel point ils ont su manipuler les esprits des musulmans en leur faisant croire qu'ils étaient les teneurs et ceux qui avaient la meilleure compréhension de la religion musulmane, qu'ils étaient les détenteurs de la vérité absolue, de la meilleure compréhension des textes coraniques en faisant référence aux salafs, alors qu'il s'agit d'un mouvement complètement contemporain. Eh bien... La bid'a est peut-être plutôt à ce niveau-là.
Bid'a en arabe étant l'innovation.
Oui. Je comprends pas pourquoi on veut toujours donner une compréhension, une note péjorative à ce mot de bid'a qui est en lien aussi avec un autre mot qui est très beau, qui est l'ibda.
Bien sûr, créativité.
La créativité et qui fait référence aussi à un attribut divin qui est l'mubda. Hein, celui qui crée, celui qui...
Savez-vous qu'à travers l'histoire, il y avait un certain Badi Azamen, le prodige de son temps, qui était auteur de séances, parce qu'il n'y avait pas une tradition de théâtre en contexte islamique, mais il y avait une tradition de séances. On venait, on faisait le conte et on parlait en composant des rôles devant un auditoire. Et l'un d'eux, il n'y avait pas que lui, il y avait Hariri et d'autres, et l'un d'eux s'appelait Badi Azamen, c'est un peu le prodige de son temps.
Tout à fait.
Donc le mot est très beau.
Mais
et
oui,
il est porteur.
Tout à fait, il est très porteur. Et moi, je ne vois pas pourquoi il faut absolument, dès qu'il s'agit de religion musulmane, il faut être dans cette posture de où il faut s'exclure, se taire et ne pas laisser... notre créativité s'exprimer, notre intellect, aller loin dans la compréhension. Pourquoi il faut toujours brider les consciences? Parce que il y a toujours cette menace donc d'être dans l'innovation blâmable, l'innovation qui irait contre le message de l'islam ou le message coranique ou celui du prophète. Moi, je pense qu'il y a des innovations nécessaires.
Et louables,
et qui sont tout à fait belles et magnifiques. La créativité de l'homme est l'expression de l'attribut divin qui vient de Dieu, qui est d'une nature divine à l'origine et qui s'exprime en nous. Donc, laissons s'exprimer notre créativité dans le bon sens, évidemment, parce qu'il y a en nous une sagesse qui doit toujours nous parler et être et nous guider lorsque nous, lorsqu'il s'agit de parler et de traiter de questions religieuses. Mais laissons s'exprimer notre belle créativité.
Pardonnez-moi, Kahina Bahloul, de vous poser cette question qui ne trahit pas un sexisme en creux. Est-ce que vous pensez que une femme imam, avec sa sensibilité, sa tendresse, sa sagesse intérieure, sa vision des choses et du monde, c'est aussi peut-être l'instinct maternel, fera en sorte que dans ses prêches, dans ses sermons, il y aurait moins de violence, moins d'acrimonie dans ses propos qu'on a pu entendre chez certains imams hommes.
Forcément, la sensibilité féminine est différente de la sensibilité masculine, même si et l'un et l'autre se retrouvent à des proportions différentes en chacun d'entre nous, en tant qu'homme ou femme. Mais la sensibilité féminine est par définition plutôt orientée vers la douceur, vers une volonté de créer le lien, de lier et de contenir et d'arrondir, hein, de contenir les choses dans une... Ben, on fait référence à cette matrice féminine qui nourrit d'amour et de douceur. Mais c'est aussi un attribut divin, la miséricorde, la clémence. Hein, Ar-Rahman Ar-Rahim qui contient en lui l'attribut féminin de Ar-Rahim. Quand on revient à la racine trilitaire du mot Ar-Rahman Ar-Rahim, on retrouve Ar-Rahim, la matrice ou l'utérus.
L'utérus féminin, la matrice. Féminin.
Donc oui, il faut laisser s'exprimer cette sensibilité féminine. Et c'est peut-être aujourd'hui retrouver cette complémentarité entre la sensibilité masculine et féminine qui va faire qu'on va harmoniser un peu tous nos comportements vers plus de douceur et d'amour.
Eh bien, sur ces belles paroles, merci Kahina Bahloul, sur ces belles paroles, nous arrivons au terme de notre émission. L'ouvrage de Shirin Khankhan est « La femme et l'avenir de l'islam ». Vous êtes comme imam l'avenir de l'islam en France. Nous avons été ravis, vraiment. Je suis heureux de vous avoir reçu. C'était Question d'Islam. Chers amis auditeurs, vous retrouverez les références des musiques et des livres sur le site franceculture.fr. L'attachée d'émission est Sylvia Favre. La prise de son est assurée par Olivier Dupré. Et la réalisation est assumée par l'ami Franck Lilin.
يضيق. Well,